Dimanche 22 octobre 1978. Quatrième leçon de catéchisme pour adultes par M. l'abbé Montarien en la chapelle polonaise, rue Saint-Honoré, à Paris.
Puisque tout à l'heure j'ai parlé aux enfants du mystère de la Sainte Trinité, je parle ce soir de la foi, parce qu'il y a un rapport très exact entre la Sainte Trinité, ou tout mystère, et l'acte de foi. Je vais analyser l'acte de foi. Je vais vous dire ce que c'est. De même que vous respirez depuis que vous êtes au monde, de même aussi vous avez la foi depuis que vous avez reçu le baptême, mais peut-être ne savez-vous pas en quoi cela consiste. Tout d'abord, une petite comparaison pour que tout soit clair en cours d'exposé. Saint Augustin disait que la foi a ses yeux à elle. Fides autem habet oculos suos. La foi a ses yeux à elle. Avec les yeux de mon corps, avec mes yeux de chair, je puis considérer les réalités sensibles. Je vous vois, je vois les couleurs, je vois les formes. Mais avec ces yeux-là, je ne peux pas contempler les réalités divines, sinon de très très loin. De très 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 loin. Il me faut des yeux supplémentaires. Et ce sont ces yeux-là qui m'ont été donnés au jour de mon baptême. Je simplifie un peu. Si j'ai été baptisé plus tard, étant adulte, c'est un peu différent. Mais dans l'ensemble, nous avons reçu le baptême alors que notre conscience n'était pas encore éveillée. Donc nous avons reçu des yeux. Des yeux qui nous permettaient, qui nous permettent de voir les choses de Dieu. Des choses que les autres ne voient pas. Ce que j'ai dit tout à l'heure de la Sainte Trinité, je pourrais le dire à des personnes qui n'ont pas la foi. Elles trouveraient cela curieux. Elles pourraient penser que c'est assez extraordinaire pour ne pas avoir été inventé. Mais c'est tout. Elles n'y verraient pas. Il faut pourvoir des yeux, les yeux de la foi. Vous savez que quand un petit enfant vient au monde, il a bien des yeux, mais ses yeux sont fermés, je crois. Je ne suis pas trop sûr, mais je crois. Et puis ensuite, il les ouvre. Mais pendant un certain temps, il ne voit pas avec ses yeux qu'il a ouverts. Eh bien, les yeux de la foi, c'est pareil. J'ai reçu des yeux au jour de mon baptême. Ils sont restés fermés un bon bout de temps. Et puis un beau jour, j'ai commencé à les ouvrir. Ce sont mes parents qui m'ont aidé à ouvrir les yeux de ma foi. Ils ont commencé à me parler de Jésus, de la Sainte Vierge. J'ai commencé à ouvrir les yeux. Et puis un beau jour, je suis allé au catéchisme. Alors là, on n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. On m'a dit des tas de belles choses. On a mis devant les yeux de ma foi des quantités de réalités que je voyais au fur et à mesure qu'on me les présentait. Je me suis toujours demandé, en fait je crois que j'ai la réponse, si un enfant qui n'est pas baptisé verrait les mêmes choses si on les lui montre. Je crois que non. J'ai rencontré, il n'y a pas si longtemps, quelqu'un qui est allé au catéchisme autrefois. C'est quelqu'un qui a à peu près mon âge. Et qui m'a avoué avoir écouté tout cela comme on écouterait un cours d'arithmétique qu'on ne comprend pas trop bien. Il n'avait pas la foi. Il n'avait pas la foi. Il avait été baptisé cependant, mais je ne sais pas pourquoi ses yeux ne s'étaient pas ouverts. Il ne s'était pas ouvert. On lui disait ce qu'on disait aux autres, qu'il y a trois personnes en Dieu, que le Fils de Dieu s'est fait homme. Tout cela, eh bien, c'est ce qu'on apprend pour faire sa communion. Il n'y croyait pas. La foi lui a été donnée ensuite, beaucoup plus tard. Mais il n'avait rien à apprendre, il savait tout. Il a ouvert les yeux sur ces réalités qu'on lui avait déjà présentées, mais qu'il n'avait pas vues jusqu'alors. Voilà donc ce qu'est la foi. C'est un don de Dieu, c'est quelque chose de très surnaturel. C'est une paire Dieu. Une paire Dieu qui est donnée à nos âmes et qui nous permet de voir ce que les autres ne voient pas. Ce que je vous raconte en ce moment, vous le croyez, simplement parce que vous le voyez, des yeux de votre foi. Si quelqu'un entrait qui n'est pas votre foi, il ne croirait pas ce que je dis. Il dirait « c'est sa religion ». ça l'intéresse, comme il est étrange, et comme ils sont curieux, ceux-là qui l'écoutent, avec une certaine attention. Après ce préambule, car c'en est un, passons aux différents éléments qui entrent dans la constitution d'un acte de foi. Cet acte de foi que vous faites souvent, que vous faites chaque fois que, eh bien, que vous récitez un acte de foi, ou que vous pensez à Dieu, à notre Seigneur, à la Sainte Vierge, à un des articles de la foi, ou bien quand vous faites quelque chose de difficile qu'il ne vous plaît pas de faire, parce que précisément vous avez la foi. Vous êtes sur le point de vous mettre au travail, vous n'avez pas envie, et vous vous dites, mais c'est la volonté de Dieu. Alors vous faites un acte de foi en même temps que vous faites un acte de charité d'ailleurs, un acte d'amour. Voilà un acte de foi. Mais il y a eu le premier acte de foi qui est le plus clair, si vous voulez. Vous savez que l'homme est composé, enfin, l'âme plutôt que l'homme, mais c'est un peu la même chose. L'âme comporte deux facultés, l'intelligence et la volonté. L'intelligence, d'abord, je comprends quelque chose et parce que je l'ai bien compris, que je l'ai examiné, que je vois tout ce qu'il faut, j'aime ce que j'ai compris, si c'est bon. Et habituellement, c'est bon. Ça, c'est l'intelligence. Et puis ensuite, c'est la volonté. La volonté, c'est l'amour. Je choisis. J'hésite entre deux solutions. Je pèse le pour et le contre. Et puis, finalement, je me dis, c'est à droite qu'il faut aller. Je vais à droite. J'aime. Je veux. Dans l'acte de foi, il y a une part d'intelligence, une grande part d'intelligence. Parce que la foi, c'est une adhésion de l'intelligence, si vous voulez. Et puis, il y a une part de volonté. Nous allons voir cela. Mais il y a surtout, au commencement, pendant, à la fin, il y a surtout le travail de la grâce. Voilà les trois éléments. Mais je les énumère et cela ne me fait pas plaisir. Je parle d'un élément, puis de l'autre, puis du troisième. Tout cela se compénètre. L'intelligence. L'intelligence me fait adhérer à ce que Dieu me dit. Premièrement, je sais que c'est Dieu qui parle. Et deuxièmement, je crois ce qu'il me dit parce qu'il est la vérité même. Il y a donc deux choses là. Il y a un travail de l'intelligence qui précède l'acte de foi. Je sais que c'est Dieu qui me parle. Pourquoi est-ce que je le sais? Il y a des signes, ce qu'on appelle des signes de crédibilité. Je pense à quelqu'un qui n'a pas la foi du tout, si vous voulez, hein. Je ne pense pas à vous ni à moi qui avons la foi depuis très longtemps. C'est très différent. Ah non, ce n'est pas différent du tout, mais c'est moins clair, c'est moins facile à expliquer. Donc quelqu'un n'a pas la foi. Imaginez par exemple quelqu'un qui écoute notre Seigneur Jésus-Christ en Galilée, un beau matin, auprès du lac. Jésus parle. Va-t-il croire Jésus? Vous savez, la prochaine fois que vous rencontrerez quelqu'un qui se prétend Dieu, je vous invite à en rire ou à le plaindre. Or, Jésus se prétendait Dieu. Mais les gens ne riaient pas. Si vous lisez l'Évangile, vous vous apercevrez que ceux qui écoutaient Jésus, ou bien le croyaient, ou bien le détestaient. Mais on ne riait pas de lui. Il y avait donc certains signes. Ce sont des signes très extérieurs, préliminaires. Ce ne sont pas des preuves de la foi. Il n'y a pas de preuve de la foi. Mais il y a des indices. Quelquefois, ces indices sont de taille. Les principaux parmi les signes de crédibilité sont les miracles et les prophéties. Les prophéties qu'on accomplit ou les prophéties que l'on fait et qui s'accomplissent ensuite. J'ai lu il n'y a pas si longtemps, je ne sais plus où, il vaut mieux d'ailleurs que je ne le sache pas, que c'est quelqu'un qui disait que après tout, les miracles de l'Évangile, ça n'est pas très important. Ont-ils réellement eu lieu? Peu importe, ça n'est pas important. Nous n'avons pas besoin de miracles. Je ne sais plus où j'ai lu cela, mais j'ai eu une de mes colères intérieures. J'en ai quelquefois comme cela. Elles sont d'autant plus mauvaises que je ne peux pas les assouvir. J'avais envie d'écrire à l'auteur de cet article ou de ce livre, « Vous êtes un ballot ». Parce que si vous croyez quelqu'un qui se dit Dieu, s'il n'en donne pas les preuves, vous êtes plutôt faible. Les miracles de l'Évangile sont très importants. le fait que Jésus ait réalisé les prophéties aussi, le fait qu'il ait annoncé la ruine de Jérusalem, et que cette ruine de Jérusalem soit survenue après que les trois premiers évangiles aient été composés, ce sont des signes de taille. Et j'en ai besoin. J'en ai besoin. Ils sont très importants. Ce n'est pas un luxe que ces miracles. Ce n'est pas un luxe que ces prophéties. Les signes de crédibilité. Ce n'est pas parce que je vois cela que j'ai la foi, mais c'est à ce moment-là que je me dis, après tout, pourquoi ne serait-ce pas vrai ce que cet homme raconte ? Il dit qu'il est Dieu. Pourquoi ne serait-ce pas vrai ? Ce n'est pas la foi, mais je suis sur le bord du grand abîme. C'est important. Et dans nos vies, indépendamment de ces miracles de l'Évangile, il y a des miracles, disons des signes. Des signes qui nous conduisent à la foi ou qui nous encouragent à la garder, mais ça n'est pas suffisant, à grandir dans la foi. J'en vois sans cesse des signes. Je me rends bien compte que Dieu s'occupe de moi de façon toute particulière, mais chacun et chacune d'entre vous peut faire la même constatation. Il suffit d'être attentif. Les signes de crédibilité. Le plus grand signe de crédibilité, disait saint Thomas d'Aquin, c'est la cohérence de la doctrine. C'est l'Église, si vous voulez. Comment expliquer cela ? Je le crois d'un bout à l'autre, ce saint Thomas d'Aquin. Ce n'est pas facile à expliquer. Vous savez que tout ce que nous croyons a été révélé petit à petit. Depuis des siècles, disons 20, 40, 40 siècles, plus même, une révélation progressive. Et Dieu a utilisé des instruments fort divers qui ne se concertaient pas. Et l'ensemble est d'une immense cohérence. Ce qu'on vous a enseigné au catéchisme, c'est quelque chose qui tient debout et cet édifice équilibré a été tiré d'une révélation multiforme, multiface, qui s'est faite en des temps très différents, en des lieux différents. La cohérence de la doctrine, l'Église, dans sa doctrine et dans sa vie, est un signe de crédibilité. Ce que nous avons pu voir ce matin à la télévision peut vous faire comprendre ce que je dis. L'Église en ce moment se présente toute voilée, toute brouillée, et puis tout à coup nous avons des éclairs. Nous nous apercevons que la foi que nous croyions morte ne l'est pas. Il y a comme une flambée. Et des quantités de choses renaissent que nous croyions perdues, disparues. Voilà le rôle de l'intelligence, premièrement. Je sais que c'est Dieu qui parle. Je me doute que c'est Dieu qui parle. Ce sont les signes de crédibilité. Et puis ensuite, mon intelligence me dit, si c'est Dieu, cela ne peut être que vrai. Mais je n'ai pas encore la foi. Je n'ai pas encore la foi. La volonté. La volonté a son rôle à jouer tout d'abord parce que l'homme peut parfaitement résister à la grâce dont nous parlerons tout à l'heure. Et par définition, parce que cet homme est libre, nous pouvons résister. C'est un triste privilège dont nous usons très souvent, sinon pour refuser la foi, du moins pour refuser les bonnes mœurs. Nous pouvons résister à la grâce. Ensuite, eh bien, il y a des obstacles dans notre volonté à l'irruption de la foi, qui sont nos passions. Il existe des hommes qui n'auront jamais la foi et qui ne l'ont jamais eue, simplement parce qu'ils n'ont pas voulu renoncer à leurs vices. Il est bien entendu que si je commence à penser que c'est bien Dieu qui me parle, je vais penser dans le même temps qu'il faudra peut-être changer quelque chose à ma manière d'agir. Il en est qui, immédiatement, ferment leur intelligence, s'opposent, font sauter tout cela. C'est le fameux péché contre le Saint-Esprit qui affecte des personnes qui n'ont pas encore la foi, mais qui peuvent affecter aussi des personnes qui l'ont reçue et qui l'ont depuis longtemps et qui finissent par la perdre. Il y a des garçons et des filles qui perdent la foi au moment de l'adolescence pour des questions de cet ordre. pour mettre ce qu'ils appellent des réalités en conformité avec leur vilaine passion. Voilà pourquoi la volonté a quelque chose à voir dans l'histoire. Ça ne veut pas dire que celui qui va accepter le don de la foi va devenir tout à coup parfait. Non, pas du tout. Mais il faut qu'en principe, il accepte de lutter contre ses défauts. Il faut qu'il les appelle des défauts. Il faut qu'il décide qu'ils sont mauvais, ces défauts. Qu'il n'aille pas les appeler des qualités. Voilà pour ce qui est du rôle de la volonté. L'intelligence, la volonté. Et il reste l'essentiel. Il reste la grâce. Parce que, voyez-vous, j'y vois à peu près, mais de très loin, je commence à me dire que ma vie n'est pas très conforme, je décide de la rendre un peu plus conforme, et voilà, je n'ai pas la foi pour cela. Parce qu'il y a un abîme entre les choses de la terre et les réalités du ciel que la foi me fait contempler de ses yeux à elle, en attendant la vision qui fera place à la foi. Nous perdrons la foi tous un jour. Quel bonheur! Un jour viendra où la foi fera place à la vision. Ce que nous voyons, comme dit saint Paul, comme dans un miroir, rappelez-vous que les miroirs de l'époque étaient de métal poli, ce que nous voyons comme dans un miroir, nous le verrons face à face. Mais nous le voyons en ce moment. Alors la grâce, comment s'y prend-elle? Eh bien, c'est comme pour l'inspiration des livres saints. Elle agit depuis le début jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à la fin du bonhomme, tout au moins jusqu'à sa fin sur cette terre. C'est elle qui éclaire l'intelligence, qui la guide, c'est un maquis, qui lui fait voir ce qui est important, qui l'oblige à se poser certaines questions. J'ai remarqué que les gens qui vont recevoir la foi ont une intelligence inquiète, et c'est normal. Vous m'avez souvent entendu dire que l'inquiétude ne venait pas de Dieu. Elle peut venir de Dieu pour ceux qui n'ont pas la foi ou pour les pécheurs qui sont sur le chemin de la conversion. Ils ne sont pas heureux. Newman, dont j'ai tendance apparemment à parler à chaque séance, je ne sais pas pourquoi, il me revient. Il me revient de ma jeunesse. Newman disait, il citait quelqu'un d'ailleurs dont j'ai oublié le nom, un protestant. Newman disait « To be at ease is to be unsafe ». Être tranquille, c'est précisément ne pas être en sécurité. Celui qui est sur le chemin de ce don qu'est la foi n'est pas tranquille dans son intelligence oscille. Ça tourne dans sa tête. C'est le travail de la grâce, le travail préliminaire. Et puis ensuite, la grâce purifie la volonté. La grâce purifie la volonté. C'est-à-dire qu'elle donne envie à cet homme de se débarrasser de ses défauts, de ses passions. Je ne dis pas qu'elle l'en débarrasse tout de suite, il faudra probablement beaucoup de temps. Mais le voilà en route. Et puis alors tout à coup, je dis tout à coup parce que c'est tout à coup que cela se passe habituellement. Je pense à des adultes, je ne pense pas toujours, je ne pense pas à ceux qui ont reçu la foi en même temps que le baptême et très tôt. Non pas que ce soit différent, c'est la même chose, mais c'est moins facile à expliquer. Voilà que tout à coup la foi leur est donnée. C'est comme un paysage qui se découvre. C'est comme un déclic. Vous avez des quantités d'exemples de ce genre dans la littérature. Vous avez ce monsieur Frossard qui a écrit un livre qui s'intitule « Dieu existe, je l'ai rencontré ». C'est un livre très intéressant, vous savez. C'est un livre qui raconte pendant des pages et des pages des choses qui n'ont pas beaucoup d'intérêt, finalement. Pour en arriver à la dernière page où il nous dit que ça lui a été donné d'un seul coup. Il aurait pu n'écrire que la dernière page, mais ça n'aurait pas fait un livre. Le don de la foi est donné d'un seul coup. Et voilà pour le travail de la grâce. Voilà maintenant pour les dispositions, c'est la conclusion si vous voulez. Il me reste 4 ou 5 minutes. Vous devriez les deviner, ces dispositions, à présent. Après tout ce que je vous ai dit, je les énumère et puis ensuite j'explique. Premièrement, l'humilité. Deuxièmement, l'amour de la vérité. Troisièmement, la mortification des passions. Quatrièmement et surtout, la prière. Alors, l'humilité. Les orgueilleux sont rebelles à la foi. Ils ne la recevront pas, ou bien ils la perdront, s'ils l'ont. Ou s'ils ne la perdent pas, ils la verront s'étioler. Alors soyez très humbles, c'est pas facile, vous savez. Demandez à Dieu. L'amour de la vérité, si vous avez la tendance au mensonge que tout le monde a, mais si vous l'avez de façon un peu exagérée, inquiétez-vous. To be at ease is to be unsafe. Là, vous avez le droit de vous inquiéter. Si vous mentez, cessez de mentir dans les plus brefs délais. Vous êtes en danger de mort, en danger de mort spirituelle. Ensuite, la mortification des passions, cela va de soi. Et puis finalement, la prière. Demandez à Dieu. Eh bien, ne demandez rien à Dieu. Essayez de connaître notre Seigneur Jésus-Christ. C'est là que je vais finir. Quelquefois, les gens se posent des questions de détail. Mais je ne comprends pas ceci. C'est curieux, le mystère de la Trinité, ou bien comment notre Seigneur peut-il être présent dans l'Eucharistie? Laissez cela de côté. Vous comprenez bien que si je crois tout cela, c'est tout simplement parce que notre Seigneur me l'a dit. Je n'ai pas d'autre grande raison que celle-là. C'est donc ma confiance en notre Seigneur que je dois développer. C'est donc que je dois connaître de plus en plus et de mieux en mieux notre Seigneur. Le voilà, le travail de l'intelligence. Si vous êtes porté sur les études, si vous aimez, si vous avez, il y en a qui sont comme ça, des cérébraux, eh bien, étudiez l'Évangile. Tâchez de voir à quel moment ces livres ont été écrits, par qui, étudiez la personnalité des auteurs, c'est important. Sont-ils des naïfs? Savent-ils observer? Sont-ils des menteurs? Et puis ensuite, voyez la personnalité de notre Seigneur, très important. Qui était-il? Comment se présentait-il? Et puis si vous n'avez pas un tempérament porté sur l'étude, eh bien, connaissez notre Seigneur d'une autre façon et encore mieux. Fréquentez-le dans la méditation. Vous le connaîtrez de plus en plus, vous l'aimerez de plus en plus et vous lui ferez de plus en plus confiance. Voilà pourquoi je me suis interrompu au moment où je parlais de la prière, parce que c'est de cette prière-là qu'il s'agit, surtout, n'est-ce pas? Connaître Jésus, celui qui nous révèle, celui en qui nous avons confiance. Après tout ce que je vous ai dit, vous devez, je suppose, comprendre ce qu'est l'acte de foi. On pourrait prendre une comparaison plate, c'est évident, puisque c'est une comparaison. Mais imaginez que je vous dise quelque chose. Tout de suite, là, je m'interromps pour vous dire, ce matin, comme je circulais, j'ai rencontré le président Giscard d'Estaing. Ou bien vous ne me croyez, ou bien vous ne me croyez pas. Mais si vous me croyez, pourquoi est-ce que vous me croyez? Tout simplement parce que vous avez confiance en moi. Vous vous dites habituellement, il ne ment pas, je ne sais pas, il n'est pas porté sur le roman. S'il nous dit cela, c'est que c'est vrai. Ça n'a aucun intérêt, mais s'il nous dit cela, c'est que c'est vrai. C'est exactement la façon de l'acte de foi. Je crois toutes les réalités de la foi parce que Dieu me le dit, plus concrètement, si vous voulez, parce que Jésus me le dit. Plus concrètement, j'ai eu une faiblesse dans la voix parce que quand Dieu parle, que ce soit par Jésus ou autrement, c'est concret. Je crois tout cela parce que j'ai confiance en Jésus. Il est digne de confiance. Alors n'allez pas vous demander comment il peut se faire que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même soit présent dans l'Eucharistie, puisqu'il l'a dit. C'est suffisant, à condition que vous ayez confiance en lui. Alors j'espère avoir bien décortiqué l'acte de foi, mais encore une fois, si je vous raconte toutes ces choses, ce n'est pas pour meubler votre intelligence, c'est pour que vous changiez votre vie si elle a besoin d'être changée. Alors vous vous rappelez, hein, l'humilité, l'amour de la vérité, la mortification des passions, et puis l'oraison mentale, ça n'a pas besoin d'être très très long, mais que ce soit bien fidèle, bien régulier, votre foi grandira. Et aussi votre charité, puisque la foi, c'est la racine.